Nous avons déjà entendu dans la parole d'introduction, entendu parler de l'armure de Dieu, de l'affirmation du champ, de rentrer en possession, et nous savons que Dieu accorde sa grâce pour tout. Il nous a fait tomber le sort, il a réparti. Vous savez que lorsque Josué a fait traverser le Jourdain au peuple, du moins à toutes les autres tribus, à l'exception des deux tribus édémies qui sont restées de l'autre côté, mais il a fait le partage et a attribué à chacun le pays et le territoire comme le Seigneur Dieu lui avait ordonné de le faire, demandé, mandaté. Nous savons que dans le Nouveau Testament, Dieu nous a montré à nous, son Église, ce qu'il avait préparé. Et pas seulement cela, mais aussi au-delà, ce qu'il avait préparé pour nous dans la gloire. Quand on chante ces cantiques qui chantent la gloire, on pourrait fermer les yeux et s'y plonger et s'y perdre, tant il est glorieux et merveilleux de penser qu'à notre temps, tout arrive à son terme. Et que la parole du Seigneur que Paul écrivait alors autrefois aux Thessaloniciens, nous qui vivons et qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, les critiques disent que Paul comptait sur la venue du Seigneur à son époque et qu'il a été déçu. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. L'Esprit de Dieu était tellement vivant en lui qu'il l'a exprimé au présent. Et nous savons très bien qu'il ne peut pas avoir été déçu. S'il a dit ce que l'Esprit lui a donné de dire et d'écrire, ceux qui seront déçus, je peux déjà vous le dire, ce sont les critiques. Ce sont ceux qui critiquent. Ils ont été déçus à l'époque autrefois et ils le seront à nouveau. Mais aucun de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu ne sera confus. Personne n'a porté l'espérance en vain. Ils seront ressuscités, ils ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui sommes restés vivants et qui, oui, nous serons transformés, changés et ensuite, et ensemble, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. J'aimerais lire une parole de Dieu sur tout ce que nous avons déjà considéré hier et aujourd'hui et peut-être même quelques passages de l'Écriture sainte. Nous avons parlé de la bénédiction de Dieu et pour cela, je voudrais lire l'histoire de Jacob dans Genèse 27. Genèse 27, du verset 30. Or, Isaac venait d'achever de bénir Jacob, et Jacob était à peine sorti de chez son père, Isaac, que son frère Ésaü revint de sa chasse. Il prépara de même un plat savoureux, l'apporta à son père et lui dit, « Lève-toi, mon père, et mange du gibier de ton fils, afin que tu me bénisses ensuite. » Isaac, son père, lui demanda, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils premier-né, Ésaü. » Alors Isaac s'ébranla de tout son être et dit, « Qui a donc été celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant ton arrivée et je l'ai béni. Il restera donc béni. » Dès qu'Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa un cri extrêmement fort et plaintif et demanda à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Mais Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse et a dévancé la bénédiction qui t'était due. » Ésaü dit, « Oui, ce n'est pas sans raison qu'on l'appelle Jacob, car il m'a déjà trompé deux fois. Il m'a privé de mon droit de premier-né. Et maintenant, il m'a aussi privé de ma bénédiction. » Puis il demanda, « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ?» Alors Isaac répondit à Ésaü en disant, « Je l'ai établi maître sur toi, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai approvisionné de blé et de vin. Que pourrais-je donc faire de plus pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü se mit à pleurer à haute voix. Alors Isaac, son père, lui répondit, « Hélas, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. C'est au moins de ton épée que tu vivras, et c'est à ton frère que tu seras asservi. Mais si tu te secoues, tu feras tomber son joug de ton cou. » Ésaü devint donc hostile à Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Jusqu'ici, ces saintes et précieuses paroles de Dieu. Nous avons parlé de la bénédiction et nous voyons qu'ici, avec la bénédiction, quelque chose a été prononcé, à savoir une parole de promesse. Et nous avons souligné dès le commencement, dès le début, que la bénédiction véritable et permanente de Dieu a été lié à la promesse de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans promesse, sans une promesse. La promesse de la parole est le fondement de la bénédiction que Dieu donne. Que cette bénédiction concerne l'individu ou l'Église. La bénédiction de Dieu est liée à sa parole. Et tous ceux qui reçoivent la parole de sa promesse, ils reçoivent aussi la bénédiction. Il est dit ici, au chapitre 18, chapitre 28, verset 3, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te rende fécond, qu'il te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il t'accorde la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi. » Lorsqu'une telle bénédiction était prononcée par des hommes de Dieu conduits par le Saint-Esprit, dans ce qu'il disait, ce n'était pas une conjecture, ce n'était pas quelque chose qui venait d'Isaac, mais c'était la déclaration que Dieu avait mise dans la bouche de son serviteur pour dire cela, afin que Dieu puisse le faire s'accomplir. Dieu ne laisse s'accomplir que ce que ses serviteurs prononcent selon sa volonté ou ce qu'il a lui-même prononcé. Il est dit ici, mais que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te rende fécond et qu'il te multiplie. Ensuite, verset 4, qu'il t'accorde la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi. Nous avons parlé ce matin de la bénédiction d'Abraham. La parole de l'Éternel a été adressée à Abraham. Et dès que la parole a été adressée, dès que l'appel a été entendu, il est parti en bénédiction. Le premier et le dernier pas ont été bénis parce que la parole de Dieu lui était parvenue. La chose la plus importante dans notre vie est l'écoute de la parole révélée par Dieu pour l'époque dans laquelle nous vivons. Dieu n'a pas donné à Abraham une bénédiction qui était il y a 2000 ans. Dieu lui a donné une promesse pour son temps, pour le chemin qu'il devait suivre. Il lui a donné la parole et la bénédiction. À Jacob, il a donné la parole et la bénédiction pour son temps et il s'est laissé appeler pour être béni avec la bénédiction d'Abraham. C'était une bénédiction actuelle dans le temps de Jacob. Une parole de promesse pour cette époque. Vous savez ce que cela signifie? À savoir, non pas ce que Dieu a fait au cours des millénaires ou des siècles passés, mais ce que Dieu était sur le point de faire dans son temps. C'était quelque chose de présent en ce temps-là. Mais que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Il relit le verset 3 du chapitre 28 de Genèse. Il n'y a rien de plus grand et de plus précieux que qui puisse être donné à un homme sur son chemin. Ce ne sont pas des trésors terrestres, mais la bénédiction de Dieu qu'il a reçue pour son chemin. Tout le reste lui est tombé dessus, nous le savons, grâce à l'histoire de Jacob. Ensuite, nous trouvons ici une parole qui est écrite, qui est également écrite dans Genèse, Genèse 32. Il les prit donc et leur fit passer le fleuve. Et quand il eut aussi fait passer tous ses biens, il resta seul en arrière. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Celui-ci, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, lui donna un coup sur l'articulation de la hanche. C'est ainsi que l'articulation de la hanche de Jacob fut disloquée pendant sa lutte avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. » Celui-ci lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « Désormais, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu es resté vainqueur. » Jacob lui adressa cette demande, « Dis-moi donc ton nom. » Mais il répondit, « Pourquoi veux-tu savoir mon nom ?» Alors, il le bénit là. Jacob appela alors ce lieu Pniel, car, dit-il, Pniel, donc, face de Dieu, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face et pourtant je suis resté en vie. » lorsqu'il eut dépassé Peniel, le soleil se leva pour lui, mais il boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle qui recouvre l'os de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob sur l'os de la hanche, le muscle de la hanche. D'abord, le serviteur de Dieu a prononcé sur lui une bénédiction. Puis le Dieu Tout-Puissant lui-même l'a béni. Frères et sœurs, lorsqu'une parole de promesse est adressée au peuple de Dieu comme à Jacob, le jour doit venir, doit suivre, où nous rencontrerons le Dieu Tout-Puissant comme Jacob l'a rencontré. Et où non seulement une bénédiction est prononcée, mais où nous rencontrons celui-même qui nous bénit et le tenons fermement en disant je ne te laisse pas si ce n'est que tu me bénisses. C'était un effet merveilleux de ce que son père avait prononcé au nom du Seigneur et par ordre de Dieu. Et nous sommes convaincus qu'il est parti, que cette bénédiction est partie avec lui. Mais lorsque ce jour est arrivé pour Jacob, que non seulement son père avait prononcé une bénédiction au nom de l'Éternel sur lui, mais qu'il a pu rencontrer lui-même celui de qui découlent toutes les bénédictions. Il a dit, je ne te laisserai pas si ce n'est que tu me bénisses. C'est quelque chose de merveilleux que de recevoir la parole de la promesse dans son temps et d'avoir la bénédiction en perspective, puis de rencontrer ensuite celui de qui la parole est partie, de rencontrer celui qui a fait la promesse et de rencontrer celui qui peut faire descendre toute bénédiction. Et je crois que c'est là que nous en sommes arrivés. Nous avons entendu la parole de la promesse. Elle nous est parvenue. Et Dieu nous a aidés de diverses manières. Nous le savons très bien. Maintenant, nous devons faire l'expérience d'un Peniel, d'un lieu où nous pouvons contempler la face de Dieu. N'est-ce pas là encore le parallèle avec la parole selon laquelle le Seigneur élèvera sa face pour la faire briller sur son peuple et nous faire grâce? Nous savons que la bénédiction a déjà commencé avec le droit du premier-né, le droit d'aînesse, le droit du premier-né, que Dieu avait l'intention de bénir immédiatement. Plus tard, la loi de Moïse le met particulièrement en évidence. Mais la bénédiction de Dieu a déjà commencé assez tôt. C'est-à-dire chez ceux qui lui ont donné la foi, qui l'ont cru et qui ont reçu la parole. Si nous voulions suivre toute cette trace de la bénédiction divine parmi le peuple de Dieu, nous arriverions jusqu'à l'endroit où nous avons lu, ou comme nous l'avons sans doute lu hier dans Matthieu 25, « Venez, vous les bénis de mon Père et héritez du royaume. » Tous ceux qui ont été bénis par Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin des temps pourront entrer dans la gloire de Dieu. Et ce sont des hommes qui ont entendu la parole du Seigneur, qui ont reçu la promesse pour leur temps et qui y ont cru. Dans l'Épître aux Hébreux, comme nous l'avons vu, le Seigneur Dieu a fait dire « Qui sont ceux contre qui Dieu s'est irrité pendant 40, 40 ans, mais qui n'ont pas associé à la foi ce qu'ils ont entendu. Hébreux 4. Mais qui, d'une part, ont entendu et d'autre part, se sont levés pour se divertir à leur manière. 1 Corinthiens 10. Et le Seigneur dit, en eux, Dieu n'avait pas trouvé son bon plaisir. Au verset 5, 1 Corinthiens 10. Et Dieu, dans sa colère, jura qu'il n'entrerait plus jamais dans son repos. Hébreux 4. Mais en même temps, il dit là, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et il dit, l'Éternel a fixé un aujourd'hui. Non pas un hier, ni un demain, mais Dieu a fixé un aujourd'hui. Nous en avons parlé en détail. Et un aujourd'hui. Pour Jacob, c'était un aujourd'hui. Quand Isaac a prononcé la bénédiction que Dieu lui a dictée, c'était un aujourd'hui pour lui lorsqu'il a pu rencontrer le Seigneur là-bas. C'était un aujourd'hui pour Abraham lorsque le Dieu Tout-Puissant l'a béni, lui a parlé et lui a donné la parole de la promesse dans son temps. C'était un aujourd'hui pour tous les serviteurs et enfants de Dieu tout au long de cette période. Pour revenir à ce que nous avons considéré hier soir, je voudrais encore lire une parole du prophète Agée. Il y a là une parole tout à fait merveilleuse dans le contexte du serviteur de Dieu qui avait parlé au peuple de Dieu autrefois où il était revenu de captivité pour servir à nouveau leur Dieu. Il est dit ici dans le prophète Agée, au premier chapitre, Agée chapitre 1, verset 12. Alors Zorobabel, fils de Ziatiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tous ceux qui restaient du peuple, écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée le prophète, comme ils le reconnaissaient en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel, leur Dieu. Oui, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alors Agée, le messager de l'Éternel, dans la puissance d'un message divin, fit cette révélation au peuple. Je suis avec vous, telle est la déclaration de l'Éternel. Si nous examinons cette parole de plus près, nous voyons que le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient restés, ceux qui restaient, avaient reconnu que l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, avait été donné par la parole que le prophète leur avait adressée. Ils savaient que ce n'était pas Agée qui nous parlait, mais le Dieu Tout-Puissant lui-même qui nous parlait par Agée. Il ne s'agit pas du message d'un prophète, mais du message envoyé par Dieu à son peuple à cette époque. C'est pourquoi il est dit merveilleusement ici, la deuxième partie du verset 12, Agée 1, et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée. Ils écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée le prophète, comme ils le reconnaissaient en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel, leur Dieu. Chaque fois que le peuple de Dieu reconnaissait qu'un prophète lui avait été envoyé, il était prêt à accepter ce qu'on lui disait. Et le Seigneur pouvait leur apporter du réconfort et leur dire, « Je suis avec vous. » Ce n'était pas un vœu pieux ou religieux, mais c'était ainsi par l'Éternel adressé à ceux qui avaient reconnu que le message de Dieu leur était parvenu par la bouche du prophète. La question est maintenant de savoir si tous les autres avaient le droit de dire « Dieu est avec nous ». Il est écrit ici qu'ils avaient reconnu. Peut-être devrions-nous le relire. Et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée le prophète, comme ils le reconnaissaient en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel. Leur Dieu, oui, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alors Agée, le messager de l'Éternel, dans la puissance d'un message divin, ici, dans la tradition luthérienne écrit, alors Agée, l'ange de l'Éternel, dans la puissance d'un message divin, fit cette révélation au peuple. Je suis avec vous. Telle est la déclaration de l'Éternel. Avec qui l'Éternel Dieu était à cette époque? Il était avec ceux et seulement avec ceux qui avaient reconnu que la parole de Dieu leur avait été adressée par la bouche du prophète Agée. Pour eux, toute question et toute énigme était terminée. Pour eux, venait la déclaration divine. Voici, je suis avec vous, ainsi par l'Éternel. Parce qu'ils avaient entendu, écouté ce que Dieu avait à leur dire en ce temps-là. Ils ont reconnu le Seigneur, leur Dieu. C'est un passage très important dans la considération de ce que Dieu a fait à notre époque. C'est comme ça qu'ils ont reconnu le Seigneur, leur Dieu. Et c'est avec eux qu'il était. Non pas que nous reconnaissions par nous-mêmes, non pas qu'ils aient reconnu par eux-mêmes à cette époque. C'était la grâce de Dieu. Dieu a tourné le peuple ou le cœur de son peuple pour qu'ils croient ce qui leur était dit. Et eux non plus n'ont pas eu besoin de temps de réflexion, mais parce qu'ils ont cru ce qui leur était dit, le prophète a pu leur dire immédiatement que le Seigneur était avec eux. Ensuite, au chapitre 2, il y a quelque chose de tout à fait merveilleux que le prophète a pu dire au nom de l'Éternel, au peuple de Dieu. À cette époque, peut-être de la dernière partie du verset 4, Agée 2, verset 4, à la dernière partie, « Et travaillez, car je suis avec vous. » C'est la déclaration de l'Éternel des armées. La promesse, le verset 5 maintenant d'Agée 2, « La promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure valable et mon esprit agit au milieu de vous. Ne craignez pas. » Peut-être seulement jusqu'ici. À l'époque, tant d'années après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, le prophète est conduit et inspiré par l'Esprit de Dieu pour revenir en arrière pour jeter un pont entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils ont été amenés hors d'Égypte. Et il est dit, vous travaillez. Travaillez, car je suis avec vous. C'est ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Maintenant, Agée 2, verset 5. La promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure valable. Après tant d'années passées, le même Dieu qui avait parlé par Moïse, ici parle par le prophète Agée et dit, ma promesse que j'ai donnée à vos pères lors de leur sortie d'Égypte reste, demeure valable. avec d'autres mots, ce que j'ai dit, je le maintiens après toutes ces centaines ou milliers d'années. Dieu est fidèle à sa parole. Peut-être qu'Agé ne pensait même plus à ce que Dieu avait promis à Moïse et au peuple de Dieu. Mais Dieu s'en est souvenu. Et à la fin de cette époque, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit au début. Frères et sœurs, je n'y peux rien, mais cela me rappelle ce qui a été dit là-bas à Jérusalem immédiatement après l'effusion du Saint-Esprit au début de cette époque, à savoir Actes des Apôtres 3, verset 21, que le Seigneur Jésus demeurera dans le ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses que Dieu a annoncé par la bouche de tous ses saints serviteurs et prophètes. Si un prophète était ici aujourd'hui, il pourrait dire, ainsi parle le Seigneur, je me souviens de ma parole que j'ai prononcée au commencement du Nouveau Testament et je l'accomplis au milieu de vous aujourd'hui. Dieu se souvient de sa sainte parole. Beaucoup peuvent rester en ce temps, ont pu rester autrefois avec la parole prononcée par Pierre que le ciel doit recevoir Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a dit par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes. Mais nous, en ce temps, à la fin de notre temps, à la fin de la nouvelle alliance, nous pouvons revenir à ce que Dieu a fait et a annoncé au début de la nouvelle alliance par la bouche de son saint serviteur et apôtre là-bas à Jérusalem. N'est-ce pas merveilleux? Voici le prophète Agé où Dieu parle par le prophète et dit « La promesse que je vous ai faite lors de votre exode d'Égypte, de votre sortie d'Égypte. » Ici, Agé et tous les autres étaient en effet les descendants de ceux qui étaient sortis à l'origine. Nous n'étions pas à Jérusalem, mais c'est le prolongement de ce que Dieu a commencé à faire à Jérusalem. Et nous, à la fin de ce temps de grâce, nous pouvons être rappelés aux promesses que Dieu a faites au début du temps de grâce, qu'il rétablira, restaurera toutes choses et les remettra en état, et que Christ ne peut pas revenir avant qu'il doit rester au ciel jusqu'à que tout soit restitué, restauré, comme Dieu l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. C'est une chose merveilleuse et glorieuse. Il est dit dans Agé 2, verset 4, la deuxième partie, « Et travaillez car je suis avec vous. » Cette parole, tout le monde ne peut pas la prendre parce qu'il en a envie. Cette parole a été adressée seulement à ceux qui, à cette époque, ont reconnu que le prophète avait été envoyé au milieu d'eux avec le message de Dieu. Oui ou non? Aujourd'hui, chacun prend la parole et ne se soucie plus de rien d'autre, mais se part de toutes sortes de choses, de la parole. Oui, l'Éternel est avec nous, sans comprendre à qui cela avait été adressé autrefois, dans quel contexte la parole se trouve dans l'Écriture sainte, en général, et pour quel contexte elle a été donnée. Il y avait ici des gens qui étaient revenus de la captivité à Babylone. Et n'est-ce pas ce qui nous est arrivé à nous qui sommes revenus à la fin des jours de toute la confusion et de la captivité babylonienne? Les prisons se sont ouvertes et nous avons pu sortir librement pour offrir des sacrifices au Dieu vivant dans la justice et la sainteté. Et à partir de ce jour-là, il a été dit, travaillez quand je suis avec vous. On ne peut encore rien nous dire de mieux que l'assurance que Dieu nous donne. En d'autres termes, vous avez entendu ce que je vous ai dit par le prophète que j'ai envoyé au milieu de vous. Vous pouvez travailler car je suis avec vous. Je me souviens de ma parole et de ma promesse et je les accomplis au milieu de vous parce que vous avez cru en moi. C'est tout de même l'alpha et l'oméga. Ne pas simplement dire « je crois », mais croire ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et travailler, car je suis avec vous. Telle est la déclaration du Seigneur de l'Éternel des armées. Agée 2, verset 5. La promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure valable. Frères et sœurs, la bouche du Seigneur n'a-t-elle pas dit lors de l'Exode de l'Église du Nouveau Testament, voici, je vous envoie le prophète Élie qui rétablira toutes choses dans l'état primitif. N'est-ce pas là une déclaration solennelle? Et j'ai ici, je vois qu'il semble y avoir quelque chose qui ne va pas. La joie n'est pas ce qu'elle devrait être. Ici, dans Matthieu 17, il est écrit au verset 11. Vous semblez étonné. Il leur répondit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Remettra tout en ordre. Le Seigneur Jésus a prononcé cette parole après que le ministère de Jean ait pris fin depuis longtemps. Et il dit qu'Élie viendra au futur pour tout remettre en place, pour rétablir toutes choses. Celui qui veut lire cela peut se convaincre que le Seigneur Jésus et tous les apôtres, lorsqu'ils ont parlé de Jean, ne se sont jamais référés à Malachie 4, verset 5, mais à chaque fois à Malachie 3, verset 1 et à Ésaïe 40, verset 3. C'est un exercice que tout le monde peut faire. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 11, où il est écrit au 10e verset. Car c'est à lui que se réfère la parole de l'Écriture. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin devant toi. Jésus n'a pas dit une seule fois en se référant à Jean, voici celui qui devait venir avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Pas une seule fois. Donc se référant à Malachie 4, 5. Et lorsque Marc a commencé à écrire son évangile, qu'a-t-il dit? Il s'est référé à Malachie 3, verset 1 et à Ésaïe 40, verset 3. Il y est écrit, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a commencé de la manière suivante, Marc 1. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici que j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Comme il est écrit, donc Marc 1, verset 2, maintenant le verset 3, et une voix crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur, rendant droit ses sentiers. Je vous le demande, où est-ce que le Seigneur Jésus ou un apôtre, lorsqu'il a écrit et rapporté le ministère de Jean, le Baptiste, a-t-il fait référence à Malachie 4, verset 5? Où? Montrez-le-moi. Pas une seule fois, ni par le Seigneur, ni par les apôtres. Et lorsqu'on a demandé à Jean lui-même s'il était Élie, il a répondu ici, dans Jean chapitre 1, au verset 20. Alors il confessa ouvertement et déclara que qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent encore, « Es-tu donc Élie ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Jean 1, verset 20. Il savait exactement qui est-ce qu'il était. Le Seigneur Jésus savait qui il était. Marc savait qui il était. Et je vous le demande maintenant. Est-ce qu'un prédicateur de ce temps a le droit de refuter cela et de dire quelque chose de contraire à ce que Jean et ce que Jésus et les apôtres ont dit eux-mêmes? Si vous vous moquez aujourd'hui, oui, comme les prédicateurs qui disent, tout cela a déjà été fait depuis longtemps. Mais nous croyons que Marc a été conduit et guidé exactement par le Saint-Esprit, tout comme un Jean. Et nous croyons que le Seigneur Jésus lui-même a parlé en pleine autorité divine quand il a dit, c'est à lui que se réfère la parole de l'Écriture. Voici que j'envoie mon messager devant moi. Et ça, c'est Malachie 3, verset 1. Ou bien alors, qu'est-ce que nous voulons croire? Voulons-nous croire ce que disent les curés de cette époque qui ne croient pas du tout Dieu? Ou bien voulons-nous croire ce que les prophètes, les apôtres et le Seigneur Jésus lui-même ont dit? Nous arrivons là à la promesse de Dieu pour notre époque. C'est alors, autrefois que âgé, ou alors que Dieu avait parlé par lui. La promesse que j'ai faite, que je vous ai faite, Agé 2, verset 5. La promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure valable. Et mon esprit agit au milieu de vous. Pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu agissait subitement au milieu d'eux? Soudain à nouveau au milieu d'eux. Parce qu'ils avaient entendu et cru la parole prophétique. Et qu'ils étaient prêts à mettre en pratique ce que Dieu leur avait dit dans leur temps. Alors l'Esprit de Dieu agissait au milieu d'eux. Ils étaient revenus. Ils étaient des gens qui croyaient à la promesse pour ce temps-là dans lequel ils vivaient. Car c'est ce qu'a dit Daniel au nom du Seigneur. Quand 70 ans seront accomplis, je les ramènerai. Et quand ils eurent accompli 70 ans, ils furent ramenés, et déjà, après avoir été ramenés, la parole prophétique retentit au milieu d'eux. Et Dieu retourne à la sortie d'Égypte et dit, je me souviens de ma promesse que j'ai faite solennellement à vos pères à leur sortie d'Égypte. Et il dit, mon esprit règne au milieu de vous, agit au milieu de vous, ne craignez pas. Oh frères et sœurs, l'Esprit de Dieu agit seulement là où la parole de Dieu est reçue. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Et celui qui passe à côté des paroles de Dieu, passe à côté de Dieu. Et celui qui passe à côté de Dieu, Dieu passera aussi à côté de lui. Il n'y a pas d'issue. Là, la promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte reste valable. Et mon esprit agit, règne au milieu de vous. Ne craignez pas. Agé 2, verset 5. Dieu a agi avec miséricorde dans son Église en ces derniers temps. Son esprit est présent pour transfigurer, pour révéler, pour faire connaître sa parole révélée, pour faire enfin ôter toutes les écailles de nos yeux, frères et sœurs. Après toutes ces années, il ne devrait plus être nécessaire d'évoquer ces choses ici et d'en parler. Il devrait avoir été révélé et scellé depuis longtemps dans le cœur de chaque enfant de Dieu, ce que Dieu a promis pour ce temps et ce qu'il a fait par grâce. Nous voyons que sa parole a été donnée au moment du retour. Il a pensé à ce qu'il avait promis au moment de l'exode. De sa propre bouche, il a déclaré solennellement, Élie doit venir en premier et remettre tout en place, rétablir toutes choses. Il a fait de même avec Pierre. Il a fait dire qu'il restera au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses que Dieu a fait annoncer par la bouche de tous les prophètes dès le début. Nous vivons, ça c'est acte 3, verset 21, 20. Nous vivons le temps de l'accomplissement. L'Esprit de Dieu règne et agit au milieu de nous. Sa parole nous a été adressée. Nous pouvons entendre, écouter. Lorsqu'il dit « Je suis avec vous », c'est ainsi que s'exprime le Seigneur Dieu. Et il dit « Ne craignez pas, car votre travail sera récompensé ». C'est une époque glorieuse dans laquelle nous vivons, un temps d'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qu'il a dit au début de la nouvelle alliance, il l'accomplit à la fin de la nouvelle alliance. Et nous vivons maintenant et nous apprenons que notre Dieu est fidèle et qu'il fera en sorte que sa parole s'accomplisse et que son œuvre soit achevée. Loué et exalté soit son merveilleux nom, son saint nom. Amen. Nous nous levons pour prier. Ô Seigneur notre Dieu, nous te remercions ensemble en tant que ton peuple. Ô Dieu, nous voyons les traces de bénédiction dans la vie de tes serviteurs à qui ta parole avait été adressée, la parole de la promesse. Et nous voyons les traces de bénédiction dans ton peuple qui a reçu la parole de la promesse en son temps. Dieu fidèle dans les cieux, nous sommes trop peu de choses, nous sommes trop maladroits, trop indignes de toute l'action et de toute l'activité de notre Dieu, de toutes ses paroles et de toutes ses révélations. Mon Seigneur, parce que c'est le moment où toutes choses arrivent à leur terme, tu as veillé sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Tu as fait des promesses lors de l'Exode et tu les as tenues après le défi, après la sortie de la captivité à Babylone. Tu as fait des promesses au début de la Nouvelle Alliance et tu les as tenues à la fin de la Nouvelle Alliance. Alléluia! Nous pouvons te voir dans l'Apocalypse comme celui sur la tête duquel se trouve l'arc ancien. Nous pouvons te voir dans l'Apocalypse comme celui sur la tête duquel se trouve l'arc en ciel, l'arc de l'Alliance. Alléluia. Dieu de fidélité, tout puissant, roi des rois, et à toi soit la gloire, l'action de grâce et la gloire. Ton esprit règne au milieu de nous et ta parole a été révélée. Seigneur, nous te louons pour cela et nous t'adorons. Maître fidèle, accepte-nous tels que nous sommes. Et Seigneur, nous sommes à l'affût, nous regardons, car bientôt la voix retentira. Venez, vous les bénis de mon Père, recevez la royauté qui vous a été préparée depuis la fondation du monde. Tous les bénis entreront dans ta clarté, dans ta gloire. Alléluia. Abraham, Isaac et Jacob, parmi tous les enfants de Dieu et tous les prophètes, ont été bénis par la parole de la promesse que tu leur as faite dans leurs différentes époques. Seigneur, nous te remercions de ce que nous aussi nous pouvons être des enfants de la promesse, des enfants de Dieu qui ont reconnu ce qui se passe en ce temps. Loué et exalté soit ton nom glorieux. Amen.